Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons aujourd'hui l'étude du chapitre 7 de l'Évangile selon Saint-Luc, donc sur le polycopier qui contient les commentaires des Pères de l'Église pour les chapitres 6 à 10 à la page 8. Il y a beaucoup de choses très importantes dans ces commentaires. Je vous l'ai déjà expliqué. Il y a certains passages qui ont été plus expliqués par les pères, notamment un de ceux qu'on va voir dans ce chapitre 7, le passage de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Les pères ont beaucoup plus expliqué ces passages que d'autres passages. Donc il y a plus de choses à dire. Alors commençons par le chapitre 7 de Saint-Luc, versets 1 à 10. Quand notre Seigneur eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Or un centurion avait un serviteur malade sur le point de mourir et qui lui était cher. Ayant entendu parler de Jésus, il lui députa quelques-uns des anciens des Juifs, le priant de venir sauver son serviteur. Celui-ci étant arrivé auprès de Jésus, le priait avec grande instance en disant, « Il mérite que vous fassiez cela pour lui, car il aime notre nation, et c'est lui qui nous a bâti la synagogue. » Or Jésus s'en alla avec eux. Déjà, il était non loin de la maison, lorsque le centurion envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, Seigneur, ne prenez pas cette peine, car je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Aussi ne me suis-je pas même jugé digne de venir vers vous, mais dites un mot et que mon serviteur soit guéri. » C'est moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, allez, et il va, et à un autre, venez, et il vient. Et à mon serviteur, faites ceci, et il le fait. En entendant cela, Jésus fut dans l'admiration pour lui, et se tournant, il dit à la foule qui les suivait, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Et s'en étant retourné à la maison, les envoyés trouvèrent le serviteur en bonne santé. On voit là la vertu extraordinaire de foi de ce centurion. Il était vraisemblablement un Romain. Donc, quelqu'un qui connaissait mal la foi juive, mais qui avait entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui fait un acte de foi extraordinaire, puisqu'il ne demande pas à notre Seigneur Jésus-Christ de se déplacer en personne et de venir jusqu'au lit de son serviteur qui était malade. Mais il demande simplement, par un acte de foi extraordinaire, encore une fois, que notre Seigneur Jésus-Christ dise un seul mot. Dites un seul mot, mon serviteur sera guéri. Voir aussi que ce centurion se donne toute cette peine, non pas pour un de ses enfants, pour un de ses serviteurs. Ça montre aussi qu'il prenait bien à cœur la santé physique de ses serviteurs. Donc notre Seigneur ne voulut point aller dans la maison de l'officier du roi qu'il en priait pour son fils afin de ne point céder à l'influence de sa position et de ses richesses. Mais il consent ici à se rendre dans la maison du centurion pour qu'on ne pût supposer qu'il méprisait l'humble condition de son serviteur. Donc, notre Seigneur ne fait pas exception de personne. C'est un avertissement pour chacun d'entre nous, surtout pour nous les prêtres, de ne pas tenir trop compte des moyens matériels, si vous voulez, qui sont autour de nous. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un gros bienfaiteur que cette personne va avoir des droits supplémentaires sur les prêtres, sur les abbés. Il est même un peu dangereux d'être trop dépendant de gros bienfaiteurs pour nous, parce que, eh bien, on a vite fait après de se retrouver un petit peu ligoté, lié, ne plus oser dire à ces gros bienfaiteurs qu'on peut voir parfois de façon très régulière, par exemple tous les dimanches à la messe. On n'ose plus leur dire certaines choses parce qu'on craint de perdre le bénéfice de l'aide financière de cette personne. On sert notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut que le prêtre garde sa liberté d'action, sa liberté de parole, sa liberté d'agir à l'égard de ses fidèles pour dire ce qui doit être dit. C'est plus facile, je l'avoue, de garder sa fonction de prêtre on ne dépend pas de façon trop directe de moyens financiers de certaines personnes. Mystiquement, donc voilà ce que disent les pères. Le serviteur du centurion représente le peuple des nations qui, enchaîné dans les liens de la servitude du monde, en proie à la maladie mortelle de ses passions, attend sa guérison de la miséricorde du Seigneur. Le centurion, dont la foi est mise au-dessus de la foi d'Israël, représente les élus d'entre les gentils qui, entourés des vertus spirituelles comme d'une cohorte de 100 soldats, s'élève à une perfection sublime, car le nombre 100 qui s'écrit de gauche à droite figure ordinairement la vie céleste. On appelait un centurion quelqu'un qui était en charge de 100 soldats. Et comme ce centurion n'était pas un juif, et donc il faisait partie du peuple des gentils. Et les pères disent que ce centurion représente les élus des gentils, c'est-à-dire l'élite des gentils. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre le mot élu. L'élite des gentils, non pas l'élite financière, l'élite matérielle, mais l'élite intellectuelle, l'élite morale. On voit, c'est très clair aujourd'hui de plus en plus, comment le bon Dieu va chercher certaines âmes pour les rapprocher de Dieu, pas toutes. Moi, je vois ça régulièrement avec la prédication des exercices de Saint-Ignace, comment certaines personnes viennent faire les exercices de Saint-Ignace, qui viennent parfois de très loin et qui ne sont pas forcément du tout des gens qui sont habitués à la foi catholique, ce sont parfois des catholiques baptisés, mais qui n'ont pas pratiqué pendant des années et des années, et qui viennent poussés par la grâce du Saint-Esprit, alors qu'au contraire, des catholiques qui sont peut-être beaucoup plus proches matériellement et physiquement du lieu de retraite, qui ne viendront jamais faire la retraite, trouveront pas le temps, alors qu'ils auraient le temps s'ils le voulaient. Donc soyons vraiment des instruments. Ici, on voit très bien comment ce centurion est un instrument, un serviteur inutile. Après avoir fait tout ce que nous devions faire, disons au Seigneur, selon le conseil de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, disons au Seigneur, Seigneur, je ne suis qu'un serviteur inutile. Et c'est ce que dit ici le centurion. Il le fait bien remarquer. J'ai des soldats sous mes ordres, et quand je donne des ordres, je suis obéi. Eh bien, Seigneur, faites la même chose. Vous êtes le grand maître, vous êtes le créateur, vous êtes le rédempteur du monde entier. Donnez un ordre et mon serviteur sera guéri. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est impressionné par cette foi, puisqu'il le dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Donc demandons cette grâce de la foi. C'est ici la conséquence, la conclusion de ce passage de l'Évangile selon Saint Luc, l'importance de la vertu de foi. Si j'ai la foi gros comme un grain de sénové, ben je peux demander à cette montagne de se déplacer, nous dit notre Seigneur, cette montagne se déplacera. Ici, c'est la même chose. Ce centurion, qui est pourtant un païen, fait un acte de foi, reconnaît que cet homme, Jésus, dont il a entendu parler, a un pouvoir divin, et lui demande la guérison de son serviteur, et il sait qu'il va l'obtenir. Et notre Seigneur Jésus-Christ, qui voit cette foi, qui reconnaît cette foi, admire cette foi, et donc va obéir à cette demande, va honorer cette demande et guérir le serviteur malade. Nous ne pouvons, disaient les pères, aller nous-mêmes au Seigneur que nous ne pouvons voir dans sa chair, mais nous devons nous approcher de lui par la foi. Hein, par la foi, on se rend proche de notre Seigneur Jésus-Christ. Députés vers Jésus les anciens des Juifs, c'est conjurer les saints personnages de l'Église qui nous ont procédé de vouloir bien être nos patrons et d'intercéder pour nos péchés. Un catholique, c'est quelqu'un qui va prendre des intermédiaires. C'est le rôle des saints, c'est le rôle d'être Sainte Vierge Marie, c'est le rôle de Saint Joseph. Nous avons parfaitement le droit et même le devoir d'utiliser les intermédiaires que le bon Dieu nous présente pour nous amener à lui. N'oublions pas qu'avant de mourir, notre Seigneur Jésus-Christ a présenté sa mère pour être cet intermédiaire. « Fils, voici votre mère », a-t-il dit à Saint Jean, qui représentait l'Église, puisqu'il venait d'être ordonné prêtre et consacré évêque. Notre Sainte Vierge Marie, à cause de ce titre, à cause de cette action de notre Seigneur Jésus-Christ, est co-rédemptrice du genre humain, médiatrice de toutes les grâces. C'est une chose que les protestants ont beaucoup de mal à comprendre, la médiation universelle, notre Sainte Vierge Marie. Les gens nous disent tout le temps, mais pourquoi pouvons-nous pas aller directement à notre Seigneur? Mais notre Seigneur Jésus-Christ a voulu venir à nous par sa mère. Il aurait pu prendre une humanité sans passer par notre Sainte Vierge Marie de façon miraculeuse, et Dieu pouvait tout faire, et prendre une humanité de façon artificielle, sans avoir une mère à qui il va obéir pendant 30 ans, même 33 ans. Et il ne l'a pas fait. Il a voulu prendre un être humain, il a même voulu prendre un père putatif, et reconnaître ce père putatif, Saint Joseph, comme le chef de famille. C'est quelque chose qui est une source d'humiliation, d'humilité pour nous extraordinaire. Le plus saint dans la très sainte famille, notre Seigneur Jésus-Christ, obéit à des créatures qui sont bien moins saintes que lui, notre Sainte Vierge Marie, et bien moins sainte que notre Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, notre Seigneur va obéir à sa mère. Notre Sainte Vierge Marie est bien plus sainte que Saint Joseph, et pourtant va obéir à l'autorité du chef de famille. C'est Saint Joseph qui prend les décisions. On voit très bien comment l'ange apparaît à Saint Joseph pour lui demander de prendre Marie, son épouse et l'enfant et partir parce que le roi Hérode cherchait à tuer notre Seigneur Jésus-Christ. L'ange ne va pas apparaître à notre Sainte Vierge Marie, il apparaît au chef de famille. Et là, on voit très bien aussi que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reste à Jérusalem à l'âge de 12 ans sans prévenir ses parents, notre Sainte Vierge Marie qui finit par le retrouver avec Saint Joseph au bout de 3 jours de recherche, lui adresse des reproches parce qu'elle ne comprend pas. Humainement parlant, c'est incompréhensible. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Votre Père et moi, tout affligés, nous vous cherchons. Elle met d'abord l'autorité du Père en place. Votre Père, dire Saint Joseph, votre Père putatif, et moi, nous vous cherchons tout angoissés. Donc il faut utiliser les instruments que le bon Dieu a placés sur notre route pour nous aider à avancer. C'est comme une canne. La dévotion à la Sainte Vierge Marie, la dévotion aux saints, est une dévotion très importante qui nous aide justement à nous avancer vers le bon Dieu. Il est plus facile de marcher avec une canne quand on boite que de marcher sans canne. Il faut aussi comprendre que la très sainte Vierge Marie a une force d'intercession tout à fait supérieure à la nôtre, puisqu'elle est mère de Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne va pas toujours écouter nos prières, va écouter les prières de sa mère. Il y a une histoire magnifique que je racontais aux enfants, aux adultes, même pendant les prédications et les exercices, une histoire du Moyen-Âge. Pour l'anniversaire d'un roi, c'est une très belle histoire. Bon, je ne sais pas si c'est une histoire véritable ou si c'est une explication qui était donnée au Moyen-Âge, mais l'histoire est magnifique en tant que telle. C'est l'histoire d'un roi qui fêtait son anniversaire dans son royaume, et tous les gens du royaume, tous les habitants du royaume viennent offrir leur félicitations à ce roi qui est un roi bien-aimé dans tout le royaume. Ils viennent offrir leur cadeau au roi pour son anniversaire. Et tous les gens du royaume, surtout dans la grande ville, viennent offrir des cadeaux magnifiques. Puis il y avait un pauvre laboureur qui voulait lui aussi, qui aimait beaucoup ce roi, qui voulait lui aussi offrir un cadeau. Mais il n'avait rien parce qu'il était d'une grande pauvreté. Alors il n'osait même pas rentrer dans la grande salle du festin où le roi était assis sur son trône royal avec tous ses courtisans autour de lui et tous les habitants du royaume venaient offrir en procession leurs cadeaux tous plus magnifiques les uns que les autres. Et à côté du roi, il y avait la reine qui était là, assise à son côté, qui examinait la scène. Et la reine, qui a de bons yeux, voit au fond de la grande salle un paysan, qui est là avec ses habits tout simples de paysan. Il est tout contrit, il est au milieu de gens qui ont des habits magnifiques, il n'ose même pas rentrer dans la salle. Mais la reine l'a repéré. Elle se lève et va au fond de la salle, traverse la foule qui est là, et va vers ce paysan. Et ce paysan était tout gêné d'être en si belle compagnie, si noble compagnie, il ne savait même pas comment se comporter. Et la reine vient vers lui, et le paysan avait amené comme cadeau la seule chose de valeur qu'il avait. C'était pour lui une chose de valeur. Il avait obtenu dans son champ une rave d'une taille extraordinaire, beaucoup plus belle que toutes les autres raves, une espèce de betterave, si vous voulez, je crois qu'une rave c'est une espèce de betterave, et une grosse betterave qui était bien plus grande que les betteraves normales. Mais il n'osait même pas apporter son cadeau parce qu'il trouvait que son cadeau était ridiculement petit par rapport au cadeau somptueux qu'offraient les autres personnes. Alors il avait son cadeau dans un sac en papier et il n'osait pas le montrer. Et la reine a compris la bonne volonté de cet homme. Elle prend la rave, elle la place sur un magnifique plateau d'argent. Et elle prend avec elle, à sa suite, le pauvre paysan et l'amène jusqu'au roi. Et elle-même offre au roi, sur le beau plateau d'argent, cette rave magnifique. C'est elle qui l'offre au roi, à son mari, à son époux. Et le roi, dit l'histoire, honore, à cause de l'intercession de son épouse bien-aimée, eh bien, il accepte le cadeau et il récompense grandement le pauvre paysan à cause du fait que ce cadeau a été introduit par la reine. Et c'est le rôle de la très sainte Vierge Marie. Nous sommes nous aussi des pauvres misérables, nous n'osons même pas nous présenter devant notre Seigneur Jésus-Christ à cause de toutes nos difficultés personnelles, nos péchés multiples et variés qui offensent notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, on va se confesser, mais on est bien honteux de nos péchés, on n'ose pas se présenter devant notre Seigneur Jésus-Christ directement. Alors, le bon Dieu nous demande d'utiliser la Sainte Vierge ou d'utiliser un autre saint de notre choix. On voit très bien la même chose, par exemple, au sommet du Tabor, lorsque Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean voient une toute petite partie de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est transfiguré devant eux. Et il déploie une toute petite portion particule de sa divinité en quelque sorte. Ses vêtements deviennent blancs comme la neige, son visage devient lumineux comme le soleil. Qu'est-ce qui se passe? Les apôtres paniquent complètement et tombent la face contre terre, complètement paniqués. Eh bien, on est un peu pareil devant notre Seigneur, on a peur. Alors on passe par la Sainte Vierge, on passe par un grand saint. Les gens du Moyen-Âge passaient par la Sainte Vierge, bien sûr, puis aussi par deux très grands saints qui ont eu une énorme influence dans le Moyen-Âge, Sainte Marie-Madeleine et Saint Jean-Baptiste. On peut passer, bien sûr, par tous les saints que nous aimons bien. Chacun peut avoir ses dévotions personnelles, privées, pour tel ou tel saint qui est canonisé par l'Église. C'est pour cela que l'Église conseille beaucoup le culte des reliques, parce que les reliques représentent ces saints qui sont pour nous des intermédiaires. Nous avons peur, à cause de nos péchés, nous présenter directement devant le roi des rois. Alors on passe par la très sainte Vierge Marie. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc on voit très bien, c'est ce qui est représenté par ce passage de l'Évangile selon saint Luc. Donc ce centurion qui n'ose pas aller directement demander à notre Seigneur Jésus-Christ de venir guérir son serviteur malade. Alors il va utiliser ses serviteurs pour bien montrer qu'il n'est lui-même rien du tout. Donc le centurion vit que le Christ ne pouvait pas encore pénétrer dans le cœur des gentils. Les soldats et les serviteurs qui obéissent au centurion sont les vertus naturelles dont un grand nombre de ceux qui viennent trouver le Seigneur portent avec eux la riche abondance. Pourquoi? Parce que la grâce ne détruit pas la nature. Il existe des vertus naturelles, attention. Les vertus naturelles ne sont pas mauvaises, elles sont bonnes. Il existe des vertus infuses qui sont, comme leur nom l'indique, qui sont infusées directement par Dieu. Et puis, il existe des vertus acquises. Et les vertus acquises, qu'on appelle les vertus naturelles, sont des vertus qui vont préparer le terrain pour l'obtention des vertus surnaturelles. Certes, le bon Dieu peut donner des vertus surnaturelles, des vertus infuses à une âme, sans passer par des vertus naturelles. Il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Mais en général, puisque la grâce ne détruit pas la nature, dit saint Thomas d'Aquin, mais l'élève, le bon Dieu va utiliser des vertus naturelles pour nous aider à obtenir plus facilement des vertus surnaturelles. Seigneur Williamson, dans son cours de théologie dogmatique, il prenait un exemple que j'aimais beaucoup pour expliquer ces choses-là. Il disait comme un hélicoptère qui doit atterrir quelque part pour délivrer des paquets importants, un matériel important. Il faut qu'il puisse se poser. Il faut un minimum d'espace. S'il n'y a pas un espace au milieu de la forêt pour qu'il puisse se poser, ben, il ne peut pas délivrer ses paquets. Il faut qu'il ait un minimum de terrain d'atterrissage, même très, très, très petit, mais au moins pour qu'il puisse se poser, à ce moment-là, délivrer ce qu'il doit délivrer. C'est la même chose. Avec notre Seigneur. Donc les vertus naturelles sont importantes et on le voit très bien aujourd'hui. Si on peut vraiment dire que si les vertus infuses ont de plus en plus de mal à trouver leur place dans les âmes modernes, c'est parce que les vertus naturelles ont complètement disparu. Les vertus naturelles aident aux vertus surnaturelles. L'exemple classique que je donne toujours, je m'excuse, je l'ai déjà souvent donné en cours, mais il est important pour moi pour expliquer ces choses-là qui sont mal comprises par nos fidèles. Exemple de vertu naturelle, la politesse par exemple. Apprendre à un enfant de 4-5 ans à dire bonjour, bonsoir, merci, s'il vous plaît, pardon, laisser passer les dames aux portes, laisser passer les abeilles aux portes, se taire quand des adultes sont dans la salle et parlent, ne pas parler à table sans permission, ne pas sans permission de l'autorité familiale, ne pas quitter la table sans permission, manger de tout, y compris les choses qu'on n'aime pas, ne pas trop manger les choses qu'on aime, ne pas se jeter sur la nourriture comme la misère sur le pauvre monde, ne pas se manger goulûment. Toutes ces choses sont des vertus purement naturelles. Mais ces vertus purement naturelles vont aider à la prière. Un petit garçon qui a jamais appris à dire s'il vous plaît, merci, pardon, sera incapable de prier. Qu'est-ce que c'est que la prière ? La prière, c'est justement dire au bon Dieu bonjour, bonsoir, merci, s'il vous plaît, pardon. On adore, on remercie, on demande les grâces nécessaires, on prend des résolutions et on fait sa belle génuflexion, on quitte la chapelle après avoir parlé au bon Dieu. Donc les vertus naturelles de politesse vont aider à la pratique des vertus surnaturelles de politesse à l'égard du bon Dieu. Et la politesse à l'égard du bon Dieu, ça non, c'est ce qu'on appelle la vertu de religion. C'est ça la vertu de religion. La vertu de religion, c'est la vertu de justice appliquée au bon Dieu. Donc c'est la vertu de politesse appliquée au bon Dieu. Un seul Dieu te adorera et aimera parfaitement. Et parce qu'on doit adorer et aimer parfaitement notre Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur et Rédempteur, on lui dit bonjour. On le salue, on lui demande les grâces dont on a besoin, on demande pardon pour nos offenses et nos péchés, et on prend les résolutions nécessaires pour mieux le servir. Donc, autre explication des pères de l'Église, en bas de la page 8, sur le polycopier, ce centurion, qui avait donc un serviteur malade, représente l'intelligence, qui est comme le chef d'une foule d'actions mauvaises, chargée qu'elle est en cette vie d'une multitude de choses et d'affaires qui l'absorbent tout entier. Donc, elle a pour serviteur, la partie de l'âme qui est dépourvue de raison. C'est-à-dire la partie irascible et concupiscible. La partie irascible de l'âme, c'est un des pouvoirs de notre âme qui nous permet de viser le bien ardu, le bien difficile à obtenir. Vous savez qu'il y a quatre pouvoirs dans notre âme, l'intelligence, la volonté, l'irascible et concupiscible. L'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. L'objet formel de la volonté, c'est le bien. L'objet formel de l'irascible, c'est le bien ardu, le bien difficile à obtenir. Et l'objet formel du concupiscible, c'est le bien désirable. Donc, l'âme doit utiliser toutes ses facultés. Les facultés de l'âme, c'est ça. Elle doit utiliser l'intelligence pour savoir où elle doit aller, où est le vrai, la volonté pour l'obtenir. Mais dès qu'on se met sur le chemin qui mène à la vérité, le démon s'en mêle, le monde s'en mêle, la chair s'en mêle, on a des tas de difficultés. Et donc, il faut vaincre ces difficultés par la pratique en utilisant notre irascible. Ira en latin, ça veut dire la colère, la force, dans ce sens-là. Donc l'irascible, c'est le pouvoir de notre âme de vaincre les obstacles. Dès qu'on se met au service du bon Dieu, le démon est jaloux et va tout faire pour nous empêcher d'obtenir ce qu'on cherche. Et le concupiscible, concupiscere en latin, ça veut dire désirer ardemment. Donc le concupiscible, c'est un pouvoir que nous avons dans notre âme de désirer les bonnes choses, les choses qui sont utiles pour nous, pas désirer n'importe quoi. Et n'importe quand, mais désirer les choses qui sont utiles. Le problème, c'est que ces quatre puissances de notre âme sont affectées par le péché originel. Donc nous avons l'ignorance qui va attaquer l'intelligence, la malice qui va attaquer la volonté, la faiblesse qui va attaquer l'irascible et la concupiscence qui va attaquer le concupiscible. Donc il faut bien distinguer, souvent les confusions que j'ai remarquées chez nos fidèles, entre le concupiscible et la concupiscence. Le concupiscible est bon, c'est une partie de notre nature, la concupiscence est mauvaise. Concupiscible, c'est désirer les choses autour de nous, heureusement qu'on désire. Imaginez ce qui se passerait pour un homme qui n'aurait aucun désir de manger, par exemple. Si on n'avait aucun désir de manger, on mourrait de faim, tout simplement, parce qu'on est incapable de remplir notre devoir d'État. Imaginez un homme qui n'ait aucun désir de dormir, par exemple. Et bien, comme on a besoin physiquement de dormir un minimum de 4-5 heures par nuit pour pouvoir arriver à remplir notre devoir d'État, quelqu'un qui n'aurait aucun désir de dormir, c'est comme une chandelle qui brûle ou une lampe à huile qui brûle sans qu'on l'alimente de nouveau et de l'huile nouvelle. La lampe va finir par s'éteindre. Mais c'est la même chose pour nous. Donc, cette intelligence, nous disent les pères, envoie vers Jésus des juifs comme médiateurs, c'est-à-dire des pensées, des paroles, des confessions, des louanges, et obtient aussitôt la guérison de son serviteur. Donc, avant d'obtenir de notre Seigneur Jésus-Christ des grâces personnelles, on commence par pratiquer la politesse spirituelle à son égard, commencer par se mettre à genoux et l'adorer. Imaginez un petit enfant de 5 ans qui vient voir sa maman qui est à la cuisine, qui prépare leur repas de midi, et qui dit « Maman, je veux ça !» Et la maman ne répond pas, s'il a un peu de bon sens. « Maman, je veux ça !» La maman va regarder son garçon et va lui dire « Mon petit enfant, il manque le petit mot magique. S'il vous plaît, maman, je veux ça !» Il manque un deuxième mot magique. Alors l'enfant comprend, s'il vous plaît maman, est-il possible que je puisse avoir cela, s'il vous plaît maman? Alors à ce moment-là, si c'est bon pour l'enfant, je dis bien si c'est bon pour l'enfant, la maman va obtempérer et donner à son enfant ce dont il a besoin. Mais si elle pense qu'il n'a pas besoin de cela en général, ou pas besoin de cet objet à tel moment précis, elle va dire non, parce qu'elle aime son enfant. Le bon Dieu c'est pareil, de temps en temps il sait qu'il doit nous donner du sucre, de temps en temps, il sait qu'il va nous donner du sel, de temps en temps, ce sera du poivre, en fonction des besoins. Alors, il ne faut pas arriver devant le bon Dieu comme un général d'armée qui commande ses troupes. Il faut arriver avec humilité, c'est ce que fait ici le centurion. C'est pour ça que ce centurion a donné comme exemple. Il a tellement d'humilité qu'il envoie ses serviteurs, je ne sais pas, il y a lui-même. Après, on continue. Versets 11 à 17 du chapitre 7 de Saint-Luc, page 9. Jésus se rendit ensuite à une ville nommée Naïm, et ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Comme il approchait de la porte de la ville, voilà qu'on emportait un mort, fils unique de sa mère, laquelle était veuve. Et une foule considérable de gens de la ville était avec elle. Le Seigneur l'ayant vue, fut touché de compassion pour elle, et lui dit « Ne pleurez pas ». Et s'approchant, il toucha le cercueil et les porteurs s'arrêtèrent. Et il dit, « Jeune homme, je vous le dis, levez-vous. » Et le mort se dressa sur son séant et se mit à parler. Il le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu en disant, « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole prononcée à son sujet se répandit dans toute la Judée, dans tout le pays d'alentour. Alors, je vous l'ai dit au début de ce cours, cette partie de l'évangile selon Saint Luc, donc la résurrection, du fils de la veuve de Naïm, est une des parties qui a été longuement commentée par les pères. Donc j'ai choisi chez les pères de l'Église à partir des trois livres de référence que je prends, je vous l'ai déjà expliqué, donc je suis surtout la chaîne d'or de Saint Thomas d'Aquin, et ce qu'on appelle la Catena Aurea de saint Thomas d'Aquin, et le livre, le grand commentaire de l'histoire de l'Église de Cornelius à Lapide, j'ai pris dans ces livres les parties les plus saillantes, les plus importantes des pères. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites, encore une fois, vous pouvez toujours trouver dans d'autres livres. Je conseille beaucoup à ceux qui ont le temps, ceux qui sont retraités, par exemple, qui ont le temps de travailler, n'hésitez pas à aller directement chercher plus de nourriture spirituelle, directement, par exemple, dans l'œuvre magistrale de saint Thomas d'Aquin, la chaîne d'or qu'on peut trouver en français. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église de cette résurrection extraordinaire. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ, de son vivant, a fait trois résurrections. Il en a peut-être fait plus d'ailleurs, mais il y en a trois qui sont mentionnées dans l'Évangile. N'oubliez pas que Saint Jean, à la fin de son Évangile, dit bien que si on racontait tout ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ pendant sa vie terrestre, tous les livres, le monde ne pourrait pas contenir tous les livres qu'il faudrait écrire pour expliquer tous ces faits. Donc il n'y a que trois résurrections dont il est parlé dans l'Évangile. Il y a eu d'abord le fils de la veuve de Naïm, chapitre 7 de Saint-Luc, d'ici là, la fille du chef de la synagogue, Saint-Marc, chapitre 5, et Saint-Lazare, chapitre 11 de Saint-Jean. Les pères de l'Église vont expliquer très bien les différences qui existent entre ces trois résurrections. Nous, on ne voit pas ces différences. On a l'impression que c'est la même chose, qu'il n'y a pas de différence substantielle entre le fils de la veuve de Naïm, entre la fille du chef de la synagogue et la résurrection de Saint-Lazare. Mais les pères de l'Église vont beaucoup plus profondément que nous pour expliquer justement ces différences. En fait, il y en a. On ne les voit pas. Il faut passer par les pères de l'Église pour saisir la substantifique moelle qui est cachée sous le texte de l'Évangile. N'oublions pas que derrière le sens évident de l'Évangile, il y a un sens caché, ce qu'on appelle le sens spirituel, j'en ai déjà souvent parlé. Donc le sens allégorique, c'est-à-dire qu'un texte de l'Ancien Testament représente ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. Le sens anthropologique ou moral, ça veut dire qu'une partie de l'Écriture Sainte va nous expliquer ce que nous devons faire nous-mêmes. Et puis le sens anagogique, c'est-à-dire qu'un texte de l'Écriture Sainte nous explique ce qui va se passer à la fin des temps. Et par exemple, il y a des différences qui pour nous semblent des détails. La fille du chef de la synagogue, elle est morte, mais elle est sur son lit encore dans sa chambre. Le corps est dans sa chambre. Et notre Seigneur Jésus-Christ va venir avec Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, va ressusciter la petite, mais dans sa chambre. Dans le deuxième cas qui nous occupe ici, donc Saint-Luc chapitre 7, versets 11 à 17, c'est le cas du fils, la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Non seulement le fils est mort sur son lit dans sa chambre, mais il est porté en terre. On portait un mort, donc il était déjà dans son cercueil, et porté par quatre porteurs pour être conduit au cimetière. Et quant à Saint-Lazare, la résurrection de Saint-Lazare, le frère de Sainte-Marie-Madeleine, chapitre 11 de Saint-Jean, c'est encore plus grave, puisque non seulement il est mort sur son lit, il a été porté en terre, il est dans le tombeau depuis 4 jours, La pierre est fermée et il sent déjà mauvais, c'est-à-dire que le travail naturel de putréfaction du corps a déjà commencé. Bon, alors voyons un petit peu avec les pères de l'Église ce que tout cela représente. Donc c'est à la page 9 et 10 de ce commentaire. Encore une fois, ce ne sont pas mes commentaires personnels, je me garde bien d'avoir une interprétation personnelle. De ce texte de l'Écriture Sainte, ça arrive souvent que les gens me posent cette question que je trouve absolument ridicule. Qu'est-ce que vous pensez de tel passage de l'Écriture Sainte ? Je réponds toujours à la même chose, j'en pense rien du tout. Voyons plutôt ce que pensent les pères de l'Église de ce passage de l'Écriture Sainte, parce que ce sont eux et eux seulement qui ont les clés d'interprétation de l'Écriture Sainte, pas moi. Donc malheur aux prêtres qui cherchent à avoir sa propre interprétation de l'Écriture Sainte, c'est ce qui a tué justement les modernistes, qui veulent tout faire des choses nouvelles, toujours faire des choses nouvelles, et avoir leur propre interprétation de l'Écriture Sainte, et qui se coupent complètement des explications qu'ont données les pères de l'Église pendant des siècles et des siècles. Et ça arrive à des catastrophes. Donc en lisant cette fois, voilà ce que disent les pères de l'Église, on tournait au milieu de la page 9 sur le polycopier, en disant qu'à cette femme ne pleurait pas, celui qui console les affligés nous apprend à nous consoler de la perte de ceux qui nous sont chers par l'espérance de la résurrection. En fait, on va voir que cette mère, le fils unique de sa mère, qui était veuve, qui porte son fils en terre, pleure. La preuve, c'est que notre Seigneur va lui dire, touché de compassion pour elle, ne pleurez pas. Donc elle pleure. Mais les pères expliquent, cet enfant unique, qui est porté en terre, représente le pécheur. Le pécheur est unique pour Dieu. Chaque âme est unique devant Dieu parce que chaque âme est différente. Dans le monde moderne, la révolution moderne, la république laïque moderne veut que tous les hommes soient égaux. C'est complètement faux. Chaque homme est différent. Il n'y a pas d'égalité devant Dieu. Chaque âme est différente. Chaque âme a des vertus spéciales. Vertus infuses, des vertus naturelles spéciales, des difficultés spéciales, des tentations peut-être spéciales. Chaque âme a un moyen de sanctification qui est différent et qui est voulu par Dieu pour elle. Eh bien, on le voit très bien. Donc cette âme qui est pleuré, qui est dans son cercueil et qui est conduit en terre, représente le pécheur qui est unique devant Dieu. C'est pour ça qu'il est dit que c'était le fils unique de sa mère. Et cette mère qui pleure la mort de son fils représente l'Église qui pleure, qui intervient auprès de Dieu par ses pleurs pour toucher le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ à cause de ce pécheur. Donc l'homme, le fils de la veuve de Naïm qui est dans le tombeau, qui est conduit au cimetière, qui devient dans son cercueil, représente le pécheur. Pécheur qui est un tas de péchés mortels. Parce qu'il est un tas de péchés mortels, il est mort. Il est physiquement mort. Non seulement il est mort sur son lit, il est en plus porté par quatre porteurs dans un cercueil fermé pour être conduit au cimetière et y pourrir jusqu'à la résurrection des morts à la fin des temps. Eh bien, cet homme qui est porté en terre représente celui qui a perdu la grâce de Dieu et est mort. Lorsque nous commettons un péché mortel, le mot l'indique, le péché est mortel, tue l'âme. L'âme, en état de péché mortel, est une âme qui est morte devant Dieu. Et cette mère qui pleure représente l'Église qui pleure. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que notre Seigneur Jésus-Christ est touché de compassion par ses pleurs. Notre Seigneur Jésus-Christ entend les pleurs de la mère, voit la foule considérable des gens de la ville qui étaient avec elle, ce devait être une veuve assez connue, et dont toute la ville vient accompagner à présenter ses condoléances à cette mère éplorée. Notre Seigneur Jésus-Christ entend le bruit, entend la foule, entend les pleurs de cette mère, et lui dit, ne pleurez pas, et va ressusciter son fils. Et bien, ça représente l'Église qui vient pleurer pour ses fidèles. À chaque fois qu'un prêtre offre la Sainte Messe, il offre sa Sainte Messe pour les pécheurs. À commencer par lui. C'est pour ça, nous dit la Sainte Écriture, nous dit l'imitation de Christ, que sur la chasuble, il y a une croix devant, une croix derrière. Une croix devant parce qu'il porte ses propres péchés, une croix derrière parce qu'il porte les péchés des fidèles. Et donc, lorsque le prêtre offre au début de l'offertoire les oblats, c'est-à-dire le vin qui est devenu le sang du Christ, le pain qui va devenir le corps du Christ, en fait, il offre tous les péchés du monde. Et nous devons placer dans ce calice, placer sur la patène, tous nos péchés personnels, en demandant au bon Dieu de les sanctifier, de les vivifier et les pardonner par sa miséricorde. Et c'est ce qui va se passer ici, c'est pour ça que notre Seigneur s'approche, il touche le cercueil, on va voir l'importance de ce geste, les porteurs s'arrêtent, et notre Seigneur donne l'ordre, jeune homme, je vous le dis, levez-vous comme il est Dieu, la mort, lâche son serviteur, la personne qui était déjà morte, et il se dresse sur son séant, et il se met à parler. Et enfin, dernier passage, il le rendit à sa mère. Nous allons voir comment chacun de ces points est important. Donc, cette mère qui pleure représente tous ceux qui sont le devoir que nous avons de pleurer tous ceux qui ont abandonné la grâce du bon Dieu. Celui qui console les affligés nous apprend donc, nous disent les pères, à nous consoler de la perte de ceux qui sont chers, qui nous sont chers par l'espérance de la résurrection. Alors, la Sainte Écriture nous dit, le Père apporte cette résurrection avant celle du Seigneur. Donc il y a eu le fils de la veuve de Sarepta, troisième livre des rois, chapitre 17, donc vous pouvez aller relire ces passages, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Le fils de la Tsunamite, quatrième livre des rois, chapitre 4. La résurrection opérée sur le corps, qu'opéra le corps d'Élisée, quatrième livre des rois, chapitre 3. Le fils de la veuve de Naïm, que nous voyons maintenant, la fille du chef de la synagogue, Saint Marc chapitre 5, et Saint Lazare, au chapitre 11 de Saint Jean, il faut rajouter comme septième résurrection avant celle du jour de Pâques, les résurrections des corps au temps de la Passion, donc les corps d'un grand nombre de saints ressuscitèrent. Donc avant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, donc il y a la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, avant donc la fête de Pâques, donc après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il va y avoir des signes physiques dans la nature importants. Il va y avoir une espèce d'éclipse du soleil qui va être vue partout. Que même en Grèce, Saint Denis l'Aréopagite va voir cette éclipse et va se douter que la machine du monde est en panne ou l'auteur du monde est en train de souffrir. Et il va y avoir des rochers qui vont se fendre et des tombeaux qui vont s'ouvrir. Et beaucoup de ceux qui étaient couchés dans la tombe, c'est-à-dire ceux qui étaient morts, vont sortir et apparaître en chair et en os aux gens de Jérusalem. Une tradition, ce n'est pas de foi, mais dit que parmi ces personnes qui sont ressuscitées à ce moment-là, il y a eu Saint Joseph. Bon, est-ce que ces résurrections ont duré pendant un certain temps. Est-ce que ces apparitions ont duré longtemps? On ne sait pas. Bon, pour ça, est-ce que Saint-Joseph est resté sur la terre après ou il est de nouveau mort? On ne sait pas. Mais le bon Dieu a voulu manifester son droit de propriété sur les âmes, en quelque sorte. Le fait qu'il est créateur des âmes et donc qu'il a le pouvoir de les faire sortir du tombeau. Alors évidemment, la dernière résurrection, c'est la plus importante. C'est celle de Jésus-Christ lui-même, le jour de Pâques. Mais c'est la huitième. Donc, qui, vainqueur à jamais de la mort, vit pour ne plus mourir et pour signifier que la résurrection générale, qui aura lieu au huitième âge du monde, ne sera plus sujette à la mort, mais sera suivie d'une vie éternelle. Donc, c'est un sens symbolique. Cette huitième résurrection explique le huitième âge du monde, le dernier âge du monde. Alors, allégoriquement, donc c'est ce que je viens d'expliquer, allégoriquement, c'est-à-dire comment ce récit représente quelque chose d'autre. La veuve qui pleure, c'est l'Église qui pleure ses enfants, donc, comme Sainte Monique qui pleure pour obtenir la conversion de son fils, Saint Augustin, la conversion de son mari, qui était aussi un bandit, un païen. Et elle a pleuré pendant des années et des années, elle a pleuré pendant plus de 30 ans, elle a fini par convertir son mari sur son lit de mort et à convertir son bandit de fils qui s'était embarqué dans le manichéisme, qui vivait en concubinage, qui avait un enfant en mariage, qui avait tout fait de travers. Elle va finir par obtenir la conversion de son fils par l'intermédiaire de Saint Ambroise, évêque de Milan. Et l'intelligence extraordinaire de Saint Augustin va être subjuguée par l'intelligence tout aussi extraordinaire de Saint Ambroise, va se convertir, va recevoir le baptême, donc effacer tous ses péchés, va devenir prêtre, évêque, un des plus grands docteurs de l'Église. Donc, la veuve qui pleure ses enfants représente tous ceux qui sont tombés dans le péché mortel et qui ont perdu la grâce du bon Dieu, c'est pour ça qu'ils sont morts. Parce que le péché a comme conséquence la mort de l'âme. Et par ses pleurs, l'Église veut ramener à la vie ses enfants qui sont morts. Donc l'Église va prier pour obtenir le retour des enfants qui vivent dans le péché mortel, donc qui sont morts, à notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour ça, elle pleure, pour faire du bruit, attirer l'attention de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. On voit très bien dans le texte, donc, alors que Jésus s'approchait de la porte de la ville, aussi qu'on apportait un mort, fils unique de sa mère, laquelle était veuve, et une foule considérable de gens de la ville était avec elle. Le Seigneur l'ayant vu, fut touché de compassion pour elle, parce qu'il a entendu ses pleurs. C'est pour ça qu'il lui dit, ne pleurez pas. Touchant alors le cercueil, les porteurs s'arrêtèrent, et dit au jeune homme, je vous le dis, levez-vous. Donc par ses pleurs, l'Église veut ramener à la vie ses pécheurs. Alors, en réponse aux prières de l'Église, aux prières de cette veuve, notons au passage que cette veuve ne demande rien du tout. Elle va pas vers notre Seigneur Jésus-Christ en lui disant « S'il vous plaît, ressuscitez mon fils, parce que c'est mon fils unique. C'était mon bâton de vieillesse. S'il vous plaît, faites un miracle. Je sais que vous êtes un grand thaumaturge. Faites un miracle et ressuscitez mon fils. » Elle dit rien du tout. Elle pleure, c'est tout. Et le Christ, en réponse à ses prières, fait trois choses. D'abord, il oblige les porteurs à s'arrêter. Les porteurs s'arrêtèrent. Ensuite, il touche le cercueil. Toucha le cercueil, dit le texte au verset 14. Et enfin, le jeune homme s'assied, commence à parler, et nous allons expliquer des symboles de ces actions qui semblent anodines. D'abord, notre Seigneur, en réponse aux prières de la mère du mourant, de celui qui est mort plutôt, donc, n'oublions pas ce terme important, en réponse à ses prières. C'est parce que l'Église demande la miséricorde de Dieu sur les pécheurs, c'est le rôle de l'Église que notre Seigneur Jésus-Christ obéit à l'ordre de son corps mystique qui est l'Église. C'est pour ça que pendant la messe, il y a un memento des vivants au début du canon où on prie pour tous les vivants, les pécheurs actuellement dans l'Église militante qui font partie de l'Église d'ici-bas, et on prie aussi pour ceux qui sont au purgatoire, c'est-à-dire les membres de l'Église souffrante. Ça, c'est la deuxième partie du canon. Après la consécration, il y a un memento des morts, où on prie cette fois-ci pour tous les morts, tous ceux qui sont au purgatoire. On ne prie pas pour ceux qui sont au ciel, ils n'ont pas besoin de nos prières, et on ne prie pas pour ceux qui sont en enfer, parce qu'ils sont en dehors de la miséricorde du bon Dieu. La miséricorde ne peut plus toucher, on peut dire que notre Seigneur n'a plus juridiction sur les âmes de l'enfer. Elles ne sont plus dans le temps, elles sont hors du temps, elles ont quitté complètement la miséricorde du bon Dieu. De même, nous ne pourrons malheureusement rien faire pour les âmes qui sont dans les limbes. Donc, les prières, c'est pour ça que l'Église ne prie pas pour les âmes de l'enfer, c'est trop tard, ne prie pas pour les âmes qui sont au ciel, parce que elles n'ont pas besoin de nos prières, et ne prie pas pour, ne prie pas non plus, donc, ni pour les âmes des âmes, ni pour les âmes des enfers, ni pour les âmes qui sont au paradis, parce qu'elles n'ont pas besoin de nos prières. Par contre, elle va prier pour les âmes du purgatoire, même si ces âmes du purgatoire ne peuvent, d'après saint Thomas d'Aquin, ne peuvent rien faire pour nous actuellement, parce qu'elles sont dans un état de purification purement passive. Mais une fois qu'elles seront au ciel, elles n'oublieront pas nos bienfaiteurs, leurs bienfaiteurs, et prieront et aideront tous ceux qui ont prié pour elles. Donc, notre Seigneur, donc, en réponse à ces prières, oblige d'abord les porteurs à s'arrêter. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il contrôle ses passions mauvaises qui dominaient le jeune homme et brise leur pouvoir. Ça veut dire que pour que notre Seigneur Jésus-Christ s'arrête et touche le cercueil, donc provoque la résurrection, c'est-à-dire la sortie du péché mortel, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord que les porteurs s'arrêtent. Ça veut dire quoi? Les porteurs représentent les mauvaises tendances, en quelque sorte, qui portent, qui poussent l'âme à s'éloigner de Dieu par le péché. Et donc, première condition, notre Seigneur Jésus-Christ touche le cercueil et les porteurs s'arrêtent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mauvaises tendances doivent s'arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse exercer sa miséricorde, première condition, c'est qu'on quitte les occasions prochaines volontaires de péché mortel. C'est ça que ça veut dire. Et donc, si les porteurs ne s'arrêtent pas, notre Seigneur Jésus-Christ ne va rien faire. Donc, d'abord, il touche le cercueil, les porteurs s'arrêtent. Ça représente le contrôle des passions mauvaises. Passions mauvaises, c'est surtout les occasions prochaines volontaires de péché mortel. N'oublions pas, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, qu'une personne qui vit en état avec des occasions prochaines volontaires de péché mortel ne peut pas recevoir l'absolution. S'il la reçoit, elle est invalide. Et le prêtre qui donne sciemment une absolution à une âme qu'il sait en état de péché, d'occasion de péché mortel, occasion prochaine et volontaire de péché mortel, si le prêtre donne l'absolution en toute connaissance de cause, l'absolution non seulement est invalide, je viens de vous l'expliquer, mais le prêtre comme une faute grave. Le prêtre comme une faute grave d'absoudre quelqu'un alors qu'il sait que cette personne n'est pas en état de recevoir cette absolution. C'est pour ça, quand on ne sait pas, par exemple, il y a quelques jours, je suis arrivé, j'étais en volant avec ma vieille maman, et je suis arrivé quelques secondes après un accident, une voiture avait quitté la route, la police, il y a déjà des gens qui s'étaient arrêtés, il y avait une personne qui était sous la voiture, encore vivante, et une autre qui gémissait à côté, la troisième était en état de choc. Bon, j'ai pas pu faire grand chose, mais j'ai donné l'absolution sous condition. C'est-à-dire, si vous êtes capable de recevoir cette absolution, je vous pardonne tous vos péchés du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que souvent c'est tout ce qu'on peut faire dans ces cas-là. En général, quand les pompiers ne nous laissent même pas approcher, parce qu'on a tous des païens, ils ne nous laissent même pas approcher, et ils ne comprennent pas du tout l'importance du prêtre. Mais je me montre au moins de telle façon que je donne toujours l'absolution sous condition, et je me montre, je suis en soutane, donc les gens me voient, et dans certains cas, les gens qui me voient appellent, mon Père, venez, venez, venez. Je dis, bien sûr, on y va. Quand on peut entendre la confession de la personne. Donc, deuxième action de notre Seigneur. Première action, il oblige les porteurs à s'arrêter, je viens d'expliquer. Deuxième action, il touche le cercueil. Et les pères de Guise font remarquer que ce cercueil est en bois. Et donc, ça représente le bois de la croix. Donc, le bois de la croix touche le pécheur, et par les mérites de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, ce bois de la croix va ramener à la vie le pécheur. Donc sans l'action de la croix, puisque c'est la croix, c'est-à-dire la passion de notre Seigneur Jésus-Christ qui est à l'origine de tous les sacrements, bien sans l'action de la croix, on ne pourrait pas obtenir la sortie du péché de l'âme en état de péché mortel. Et troisième action, le jeune homme s'assied, il commence à parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il commence une vie nouvelle. J'ai déjà expliqué, donc cette vie nouvelle c'est quoi? C'est une vie nouvelle qui correspond au changement d'état dans lequel il était. Il vivait avec des occasions prochaines volontaires de péché mortel. Eh bien, il change de vie pour quitter ces occasions prochaines volontaires de péché mortel. Et cet homme qui s'assied et qui commence à parler, ça représente aussi les bonnes œuvres, disent les pères. Les bonnes œuvres qui vont être manifestées par la nouvelle vie de cette personne. Il commence une vie nouvelle, ça veut dire qu'il vivait dans le péché, il vit maintenant dans l'amitié du bon Dieu. Et tous ceux qui en sont les témoins sont remplis d'admiration et rendent eux aussi grâce à Dieu. J'aime beaucoup cette explication que donnent les pères sur cette résurrection du fils et la veuve de Naïm. Donc en conclusion, en bas de la page 9, la veuve et l'Église, le Fils représente le peuple des gentils, enfermé dans le cercueil du péché, dans le cercueil de la concupiscence, et transporté en enfer comme dans un tombeau. Élie et Élisée, les prophètes de l'Ancien Testament, ressuscitent les morts en priant Dieu, mais Dieu le fait en commandant, parce qu'il est Dieu. Donc il n'utilise pas d'intermédiaire, il part, il donne directement l'ordre. Jeune homme, je vous le dis, levez-vous. En passant à la page 10, vous voyez qu'il y a beaucoup de richesse dans ces commentaires des pères. Je n'aurai sans doute pas le temps de finir tous ces commentaires de ce passage de l'Écriture sainte. Alors, page 10, moralement, donc ce passage de la résurrection des fils de la veuve de Naïm, ce passage nous explique comment un prêtre doit se comporter avec un de ses fils spirituels qui est tombé dans le péché mortel, qui est porté dans le tombeau de la misère éternelle. Il doit suivre le cercueil avec force, pleurs et lamentations, car il recevra les consolations du Seigneur. C'est-à-dire, la mère qui pleure représente aussi le prêtre. Le prêtre qui pleure au cours de la messe pour les pécheurs, qui offre le saint sacrifice de la messe, le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix, à une fin propitiatoire. Ça veut dire quoi, la fin propitiatoire de la messe? Vous savez qu'il y a quatre fins de la messe, il y a la fin de l'adoration, la fin de la protique, c'est la fin eucharistique, l'action de grâce, la fin impétatoire pour demander les grâces, mais la plus importante des quatre fins de la messe, c'est la fin propitiatoire. Ça veut dire que c'est la fin par laquelle on se rend Dieu propice. Dieu était peut-être un peu loin, entend la mère qui pleure pour son fils, entend les pleurs, est touché de compassion et vient. C'est ce que fait le prêtre pendant la messe. Donc il doit suivre le cercueil avec force, pleurs et lamentation, car il recevra les consolations du Seigneur, lequel va faire des choses qui viennent d'être expliquées, va donc toucher le cercueil, ramener le mort à la vie, sortir du péché, et le remettre sur la voie des bonnes œuvres, je viens d'expliquer. Donc d'abord il touche le cercueil pour obliger les porteurs à s'arrêter, obligeant ainsi les passions mauvaises à cesser, j'ai déjà expliqué, l'arrêt des occasions prochaines volontaires de péché grave. Il ramène la mort à la vie, c'est-à-dire qu'il amène le pécheur au confessionnal, par la voix du prêtre donne l'absolution, j'ai absolu tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et donc il va remettre cet homme en état de grâce, et donc cet homme va pouvoir de nouveau faire des bonnes œuvres méritoires. Lorsqu'on est en état de péché mortel, on peut faire aucune bonne œuvre méritoire. Tout ce qu'on fait pour Dieu en état de péché mortel, ça vaut rien, pas grand-chose. Par contre, si on est en état de grâce, l'état de grâce fait que notre Seigneur Jésus-Christ va reconnaître toutes les œuvres que nous faisons. Faut oublier, c'est ça qui est le drame, c'est qu'à chaque fois que j'ai le malheur de commettre un péché mortel, je perds tous mes mérites. Même si j'avais acquis au cours de mes pénitences passées, mes prières passées, des tonnes et des tonnes de mérites, si j'ai le malheur de commettre un seul péché mortel, tous mes mérites disparaissent. Je suis nu devant Dieu. Avec l'absolution, une partie de ces mérites peut revenir. Dans certains cas, tous les mérites antécédents peuvent revenir. Et même dans certains cas, par exemple, une confession générale de retraite qui a bien été préparée par 2 jours et demi de méditation, eh bien, le bon Dieu, dans sa bonté, peut même rendre plus que la personne n'a perdu. C'est-à-dire, j'avais 2 tonnes de mérites avant le péché mortel. J'ai fait une bonne confession générale toute ma vie, avec une bonne préparation pour la méditation de la première partie de l'exercice Saint-Ignace. Je reçois l'absolution du prêtre. Je vais recevoir non seulement tous les mérites que j'avais perdus, qui vont revenir à moi, mais je vais recevoir des nouveaux. Voilà, miséricorde du bon Dieu. Donc, le bon Dieu va nous remettre sur la voie des bonnes œuvres pour que nous puissions confesser nos péchés et proclamer l'amour de Dieu pour nous. Donc, on voit que, j'ai expliqué en partie qu'en 3 occasions, notre Seigneur Jésus-Christ ressuscite à mort. D'abord, la fille du chef de la synagogue, le fils de la veuve de Naïm, puis la résurrection de Lazare. J'ai expliqué qu'il y a 3 circonstances différentes. C'est pour ça qu'il y a un ordre dans ces résurrections. D'abord, la fille du chef de la synagogue, qui est toujours sur son lit, elle est toujours dans la pièce dans laquelle elle est morte. C'est le symbole du péché véniel, d'après certains pères. D'autres pères disent que c'est déjà le symbole du péché mortel, mais du péché mortel de faiblesse. Bon, et je préfère personnellement cette interprétation, parce que la jeune fille en question est morte. Donc on parle vraiment du péché mortel là. Cependant, d'après certains autres pères, ici, notre Seigneur désigne le péché véniel. Donc le fils du chef de la synagogue, celui qui pêche par pensée ou par intention. Soit un péché véniel, soit un péché mortel, mais un péché mortel de faiblesse. Deuxièmement, le fils de la veuve de Naïm. J'ai expliqué, c'est plus grave, parce que non seulement le jeune homme est mort sur son lit dans sa chambre, mais il est porté en terre, il est dans le cercueil porté par quatre porteurs. Là, disent les pères, c'est le péché mortel, mais de malice. Un péché mortel de malice est plus grave qu'un péché mortel de faiblesse. Péché mortel de faiblesse, attention, c'est un péché mortel. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les trois conditions de péché mortel. Il y a matière grave, il n'y a pas une connaissance, mais un consentement. Je savais très bien que l'action que je voulais faire était interdite par la loi du bon Dieu sous peine de péché mortel, mais ça fait rien, je le fais quand même. Donc il y a péché mortel. Mais ça peut être un péché mortel de faiblesse. Dès qu'on l'a commis, on regrette pas. On tombe à genoux, on demande pardon tout de suite au bon Dieu, on se précipite au confesseur le plus vite possible pour s'en faire pardonner. C'est un péché mortel de faiblesse. Péché mortel de malice, c'est le fils de la veuve de Naïm. Donc, c'est un péché plus grave, parce qu'on reste dans l'état de péché souvent pendant plus longtemps. Donc, ça prouve que ce n'est pas un état de péché mortel de faiblesse, mais un état de péché mortel de malice cette fois-ci. On pêche ouvertement, on influence les autres, donc il y a un péché de scandale qui se rajoute, parce que je reste dans le péché, je pousse les autres au péché. Enfin, troisième étape, Lazare qui lui est déjà dans le tombeau, donc il a quitté son lit mortuaire, il est porté en terre, il est mis dans le tombeau, la pierre est fermée et le corps a commencé sa processus de pourriture naturelle. Donc, et là, ça représente le vice enraciné. Lazare dans le tombeau représente le pécheur habitudinaire, comme enterré dans le péché, sans espoir de s'en sortir, parce qu'il faut ouvrir la porte qui pèse des tonnes, une grosse porte de pierre, on peut pas la faire rouler tout seul, donc ça représente le vice mortel d'habitude. Donc première résurrection, la fille du chef de la synagogue, le péché véniel ou le péché mortel de faiblesse. Deuxième résurrection, le fils de la veuve de Naïm, le mort est porté en terre, dans le cercueil, représente le péché mortel de malice. Troisième résurrection, Lazare qui est déjà dans le tombeau, il a quitté sa chambre, il est porté en terre, il est dans le tombeau, la pierre est fermée, représente le vice mortel d'habitude. Pour cela, il ne faut pas moins que la voix du Christ qui parle fortement au cœur du pécheur. Jésus ressuscite d'abord en priant secrètement, puis en commandant, enfin en criant d'une voix forte. Lazare sort dehors. En toute lettre dans le texte, de la résurrection de Saint Lazare, Saint Jean chapitre 11, on verra ça plus tard, il va d'abord au tombeau avec Sainte Marie-Madeleine et Sainte Marthe, et puis là il donne l'ordre. D'une voix forte il dit « Lazare, je vous ordonne, sortez !» Et Lazare sortit. Donc on voit très bien par ces trois résurrections que notre Seigneur Jésus-Christ est maître du péché véniel et maître du péché mortel de faiblesse, et maître du péché mortel de malice, et maître du péché d'habitude. Péché mortel d'habitude, c'est le péché mortel qui est renouvelé et qui demeure dans l'âme pendant un certain temps. Donc les racines s'enfoncent. Il est beaucoup plus difficile de s'arracher le péché mortel d'habitude, du vice, que de s'arracher d'un simple péché mortel de malice. Et plus difficile et plus facile de s'arracher d'un péché mortel de faiblesse ou d'un péché véniel. Vous voyez, il y a une gradation dans le mal. Notre Seigneur est chef, maître de chacun de ces péchés graves. Donc voilà, en voyant le commentaire des pères, donc sur ce passage-là, ce mort qui ressuscite hors des portes de la ville, sous les yeux d'une grande multitude, représente l'homme plongé dans le sommeil de ses fautes mortelles. Et la mort de l'âme qui ne reste plus cachée dans l'intérieur du cœur, qui se produit au dehors, et qui par ses paroles et par ses œuvres s'expose au regard de tous comme aux portes d'une ville, car chacun des sens de notre corps peut être considéré comme la porte d'une ville. Vous voyez ici, les pères font allusion au péché de scandale en fait. C'est-à-dire, l'homme est mort, péché mortel, au vu et au su de tout le monde. Donc, par sa mort spirituel, la mort au péché, il entraîne d'autres personnes à le suivre dans la même direction que lui. Donc c'est péché de scandale, c'est ça. Péché de scandale, c'est le péché par lequel je pousse le prochain en péché. C'est extrêmement grave parce que c'est difficile de rattraper un péché de scandale. On peut accuser ses propres péchés, on peut réparer pour ses propres péchés, mais comment voulez-vous accuser les péchés du voisin? Comment voulez-vous accuser le confessionnal les péchés que vous avez provoqués chez le voisin? si par mon mauvais exemple, j'ai poussé le voisin à pécher par pensée, par parole, par action, par exemple par un mauvais comportement, en me rendant ivre devant d'autres personnes, en m'habillant de façon provocante devant d'autres personnes, j'ai provoqué le péché chez d'autres personnes. D'autres personnes ont perdu sans doute la grâce du bon Dieu à cause de mon action, parce que j'ai trop bu, parce que je me suis habillé de façon provocante. Je suis responsable de ces péchés. C'est ce qu'on appelle le péché de scandale, soit direct, soit indirect. Une maman qui laisse sa fille s'habiller comme une prostituée est responsable du péché de sa fille, en partie au moins, elle est responsable du péché de scandale donné par sa fille. Le père de famille qui laisse sa femme, qui ne dit rien, en sachant très bien que sa femme ne dit rien à sa fille qui s'habille comme une prostituée, pour reprendre le même exemple, le père de famille est encore plus responsable parce qu'il est chef de famille, attention. Vous voyez comme les pères de l'Église ici expliquent très bien ces choses. Donc nous allons arrêter là parce que j'essaye de ne pas dépasser l'heure de travail ensemble, parce que j'ai remarqué qu'au bout d'une heure, en général, les gens commencent à décrocher, à bailler aux corneilles, même si je ne le vois pas. Je le sens d'ici et donc j'essaie de ne pas dépasser l'heure. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin et Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.